soit numérique, et tais-toi.
Le numérique nous rapproche de cette réalité.
Allez, je vais t'apprendre 2-3 petits trucs.
Le numérique matérialise la réalité qui nous entoure.
J'ai rien compris.
Non, ou alors c'est moi.
Non, moi non plus, j'ai rien compris.
Tais-toi, va, Fada.
Le numérique, c'est avant tout du traitement de symboles.
Tais-toi.
Qu'est-ce que tu racontes? Tu connais rien, toi.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de Sois numérique et tais-toi, l'émission qui, chaque semaine, aborde en 10 minutes une des multiples questions sur les technologies numériques et informatiques qui s'occupent de nos trottinettes, de nos signatures de pétitions, de nos discussions entre amis et de notre recherche d'emploi. Et tant pis pour vous si vous n'avez pas lu les 90 pages de conditions générales d'utilisation. Nous continuons cette semaine à décortiquer tout ce qui se passe entre nos achats en ligne et l'arrivée des colis à notre porte. Au cours des deux dernières semaines, nous avons vu les deux premières étapes de cette livraison à domicile. Les travailleurs des entrepôts, puis les transporteurs en avion ou en camion. Nous allons à présent nous intéresser à ce qui est appelé par les gestionnaires le dernier kilomètre. Alors, le dernier kilomètre, c'est celui qui sépare votre domicile du dépôt le plus proche du transporteur principal. Il est généralement effectué par une camionnette conduite par un chauffeur-livreur qui vient à votre porte et vous apporte l'objet de vos désirs que pour l'instant vous n'avez vu qu'en photo sur votre tablette. Enfin, ça, c'est quand tout se passe comme prévu. Alors, de quoi parle-t-on? Comme nous l'avons expliqué dans les précédentes chroniques, lorsque vous commandez une cafetière en ligne, vous envoyez un ordre dans un entrepôt où des ouvriers emballent la cafetière sous forme de colis et la chargent dans le véhicule du transporteur, la Poste, FedEx, UPS. Ce transporteur apporte votre colis jusqu'à un dépôt près de chez vous. Là, un autre travailleur prend le relais. Un chauffeur-livreur va se charger de la dernière étape de la livraison à votre domicile, le fameux dernier kilomètre. Concrètement, c'est quelqu'un qui va se lever très tôt le matin pour aller au dépôt, récupérer tous les colis qu'il doit distribuer dans la journée et les charger dans son véhicule. Et non, ce n'est pas le Père Noël. C'est un chauffeur-livreur. Dans le reportage réalisé par Alexia Sauvageon, que j'ai déjà cité, 24 heures chrono dans les coulisses des livraisons de colis, un journaliste suit ainsi la tournée d'un de ses livreurs. Ce dernier part peu après 5 heures du matin pour aller au dépôt. Il va préparer, vérifier et charger tous les colis entreposés par les transporteurs. Puis, il commence sa tournée. Il doit livrer environ 200 colis par jour. On y découvre une course contre la montre qui lui est imposée et perdue d'avance. Le livreur accumule du retard et se voit contraint de faire des entorses aux règles de livraison. Dans le reportage, on y apprend que cet employé, payé 35 heures par semaine, travaille parfois deux fois plus avec des heures supplémentaires rarement payées. Le journaliste calcule ainsi qu'il travaille au niveau du salaire bulgare, soit 4,50 euros de l'heure. Une autre enquête de terrain retrace le quotidien de ces chauffeurs-livreurs. Dans son ouvrage « La course ou la ville », publié en 2014, la journaliste Ève Charin accompagne Samy, chauffeur-livreur pour une petite société de livraison parisienne. Outre la rudesse de l'activité même de livraison, elle y explique la dégradation d'un métier qui a perdu toute autonomie de travail et des entorses de plus en plus systématiques au droit du travail. Une des raisons de la précarisation des livreurs du dernier kilomètre tient à la sous-traitance. En effet, la semaine dernière, nous avons parlé des transporteurs, tels que TNT, La Poste ou DHL. Eh bien, ces entreprises ne prennent généralement pas en charge ce dernier kilomètre. Dans leur étude de 2017, baptisée « Les tyrannies de la livraison à domicile », Marie Baumier et Mathilde Pierre expliquent que cette sous-traitance est massive. Je cite « Ces grandes entreprises de transport, connues du public, jouent le rôle de commissionnaires de transport, ayant avant tout la charge des flux de marchandises et contractant avec des dizaines d'entreprises prestataires de services qui fournissent la main-d'œuvre pour effectuer les livraisons. » Bref, les deux chercheuses estiment à 90% le taux de sous-traitance dans ce secteur. Leur étude confirme les terribles conditions de travail de ces livreurs. Alors qu'elles enquêtent sur une filiale d'une grande entreprise de transport de colis, les deux chercheuses expliquent. Ici, la sous-traitance est quasi complète. Sur les 35 chauffeurs-livreurs, seul un est salarié de l'entreprise. Nous avons donc fait nos tournées avec deux sous-traitants cette fois. L'un d'eux travaillait pour le compte du groupe donneur d'ordre depuis 1999, rattaché successivement à différentes entreprises de sous-traitance depuis cette date, au gré de la création et de la disparition de ces entreprises. Bref, encore une fois, ce secteur se caractérise par des abus et des violations du droit du travail qui précarisent les travailleurs. Mais réfléchissons un instant. Les achats en ligne et ce dernier kilomètre ne seraient-ils pas une solution pour l'accès à des produits pour des zones rurales ou excentrées qui pourraient ainsi se passer du tout voiture? Eh bien, malheureusement, non. En effet, la logique économique est implacable dans ce secteur et les entreprises guidées par la rentabilité n'ont aucun intérêt à desservir des zones faiblement peuplées. Déjà en 2012, quatre chercheurs français ont publié un article intitulé « Les effets de la livraison à domicile sur l'accès aux produits alimentaires, le cas des grandes surfaces alimentaires et des cybermarchés de l'aire urbaine dijonnaise ». Leurs résultats sont clairs. Je les cite. L'étude de la livraison à domicile, de son organisation et des périmètres desservis sur l'aire dijonnaise remet en cause la possibilité d'une accessibilité plus homogène des produits alimentaires d'un territoire à l'autre. Les distributeurs tendent à favoriser les territoires les plus denses et les plus peuplés pour maximiser leur part de marché et réduire au maximum les coûts liés à la desserte du dernier kilomètre. Il ne faut donc pas compter sur le commerce en ligne pour limiter les inégalités de territoire. Mais les citadins ne sont pas tranquilles pour autant. En effet, le livreur qui arrive chez vous et vous donne votre colis en parfait état dans les mains, c'est ce qui est promis par les sites de vente en ligne. En pratique, les plaintes dans ce secteur sont multiples. Colis endommagés, retardés ou complètement perdus sont très nombreux. Dans le reportage réalisé par Alexia Sauvageon, mentionné tout à l'heure, on y apprend que, chaque jour en France, plus de 80 000 euros de marchandises s'évaporent dans la nature. De même, le centre des colis perdus de La Poste en récupère chaque année environ 300 000. Enfin, les journalistes de ce reportage estiment à 1% la part de colis perdus et à 25% le taux de retard chez les entreprises les moins fiables. Et la précarisation n'arrange rien à la qualité du service, puisque pour assurer leur livraison, les employés sous-traitants n'hésitent pas à falsifier les signatures ou à déposer les colis sans sonner. Mais les responsables sont ceux qui exploitent ces livreurs. D'ailleurs, en juillet 2019, La Poste a été condamnée pour ses pratiques de sous-traitance. Malheureusement, il a fallu qu'un de ses employés décède en livraison 5 ans plus tôt pour que l'affaire soit portée devant les tribunaux. Seydou Bagaga, livreur malien de 34 ans, était employé par DNC Transport, un prestataire de colis poste, qui est elle-même une filiale du groupe La Poste. Suite à ce décès, l'inspection du travail a découvert que le salarié n'avait pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche par son employeur et que son employeur, je cite, « attendait de voir si M. Bagaga donnait satisfaction à colis poste avant de l'embaucher définitivement ». Dans ce contexte, on comprend mieux pourquoi ce livreur s'est désespérément jeté à l'eau pour récupérer un colis tombé, alors qu'il ne savait pas nager. Nous avons vu la semaine dernière que les transporteurs de colis participent à la dégradation de l'environnement. D'un point de vue économique, on comprend désormais que l'explosion du commerce électronique n'est pas subie directement par ces acteurs. Ce sont les sous-traitants qui le prennent de plein fouet et qui sont obligés de devenir plus flexibles et de baisser leurs coûts par tous les moyens. Mais alors, et nous dans tout ça? Est-ce qu'on est complice de la mort de ce livreur parce qu'on achète en ligne? C'est peut-être exagéré. Ceci étant dit, je n'aimerais pas être le client pour lequel il s'est jeté à l'eau. Mais si l'on considère le problème au sens large, cette situation nous pénalise aussi en termes de sécurité routière. Car les chauffeurs avouent passer outre le code de la route pour suivre leurs horaires. Et quel automobiliste citadin ne s'est jamais retrouvé bloqué ou ralenti par une camionnette de livraison? Quelle ironie, non? Peut-être qu'en essayant de gagner du temps en achetant en ligne, vous vous retrouvez à en perdre en attendant derrière une camionnette en cours de livraison.